Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission consacrée à l'islam et toujours en compagnie de l'éminent professeur Mohamed Al-Koun, professeur émérite de l'histoire de la pensée islamique à Paris 3 et attaché à plusieurs universités européennes et américaines et auteur de Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal aux éditions des Clés de Brouwer. Monsieur Rachid Benzin, chercheur en herméneutique coranique, sciences de l'interprétation des textes sacrés, auteur des nouveaux penseurs de l'islam aux éditions Albin Michel. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez participer à l'émission, poser vos questions claires, concises, une question par personne à partir de 11h30, la deuxième moitié de l'émission, au 08 92 68 94 30. Vous pourrez poser vos questions en direct. Vous pouvez également poser vos questions via internet samira@radioorient.com. Aujourd'hui, le débat portera sur le discours coranique et ses manipulations. Donc vous pouvez nous appeler à partir de 11h30 pour poser vos questions. Professeur Mohamed Al-Koun, donc pourquoi distinguer le texte coranique et le discours coranique? J'ai fait la faute tout à l'heure. Oui. Et vous m'avez gentiment fait remarquer que c'était très différent.
Très différent, effectivement. Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour une dernière fois dans cette série d'émissions trop courtes. Comme vous avez pu le constater, parce que beaucoup de choses n'ont pas été dites, faute de temps. Et aussi, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions que les auditeurs ont posées, toujours faute de temps. Aujourd'hui donc, il s'agit d'essayer de clarifier un certain nombre de problèmes extrêmement importants au sujet de ce que tout le monde appelle le Coran. Le Coran, Al-Qur'an, ce mot recouvre un grand nombre de significations qui échappent à une très grande majorité de musulmans. Dès le départ, il faut bien distinguer ce que recouvre le mot Coran et ce que recouvre le mot Mushaf en arabe. Car le Mushaf, c'est l'ensemble des feuillets sur lequel le Coran, le discours coranique, a été transcrit pour former un volume, comme tout autre volume que nous tenons entre les mains. Le mushaf est un produit matériel, en ce sens qu'il y a l'écriture, une main humaine qui a écrit sur des pages, et ces pages sont reliées pour former un mushaf, c'est-à-dire une copie. Et ce mushaf, copie, objet matériel, je le répète, qui dépend du travail et de l'intervention des hommes, doit être distingué de ce que le Coran lui-même, car le Coran se présente lui-même dans le discours coranique. Et il se nomme lui-même Coran. Je n'ai pas le temps d'expliquer cette forme dans la langue arabe, et ce que veut dire cette forme dans la langue arabe, et ce que veut dire le mot Iqra, comme je l'ai dit pour le mot raison. Je n'ai pas le temps. Mais ça pose des problèmes que les chercheurs scientifiques sur la langue arabe, cette fois-ci, n'ont pas encore tout à fait résolu. Iqra bismi rabbika, on ne sait pas comment traduire Iqra. Je me contente de cela parce que sinon on s'en sortira pas.
Beaucoup de gens traduisent Iqra par lit.
Justement, c'est inacceptable. Inacceptable parce que nous sommes dans un contexte de culture orale et de communication orale. Nous ne sommes pas encore en Arabie à cette époque-là et dans l'ensemble du Proche-Orient et dans toutes les autres cultures. Ça n'est pas seulement pour l'arabe et les arabes de ce temps-là en Arabie. C'est l'histoire du livre d'un côté, qui dit livre dit écriture. Histoire du livre, de l'écriture d'un côté, et de l'autre côté, histoire de la communication entre les hommes, c'est-à-dire de l'oralité. Il faut bien distinguer ces étapes historiques. L'écriture est une apparition tardive. Et même lorsque l'écriture intervient, tout le monde n'apprend pas à écrire et à lire dans la société. Jusqu'à nos jours, dans nos sociétés, nous avons ce qu'on appelle des illettrés. Ce qui est un mot tout à fait incorrect et trompeur, parce que la culture orale, c'est une culture à part entière. Sauf que dans la culture orale, la connaissance se transmet par l'oreille. Elle ne se transmet pas par l'œil qui lit. Et ceci est très important, même du point de vue de la physiologie humaine et des relations entre, justement, le fait de recevoir des sons par l'oreille qui s'inscrivent dans notre système nerveux et qui fait que la langue s'imprime, si je puis dire, dans notre système nerveux comme on imprime dans un logiciel aujourd'hui. Tandis que l'écriture, c'est autre chose.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement nous projetons sur le Coran ou le discours coranique un certain nombre de concepts qui sont des élaborations ultérieures? Est-ce que vous avez d'autres mots?
Oui, c'est ce que nous faisons constamment. C'est-à-dire que nous lisons le Coran, nous traitons le Coran d'abord comme texte. Aujourd'hui, c'est un texte. Les exemplaires de Coran, il y a des milliards, pas des millions. Et donc, ce passage à l'écriture nous dissimule quelque chose de très important. Ce quelque chose de très important, c'est que le prophète Mohammed, de 610 à 632, il a communiqué, transmis la parole de Dieu de façon orale, pas de façon écrite. Et quand on transmet quelque chose, on a des auditeurs à qui l'on s'adresse. Et donc chaque verset prononcé de façon orale avait des témoins, des auditeurs en nombre que nous ne pouvons pas connaître, et justement on aimerait bien connaître de façon historique précise quels sont les témoins, les auditeurs qui se trouvaient par exemple pour toute la sourate al-Baqara et tout ce que contient la sourate al-Baqara, tous ces versets qui ne sont pas intervenus d'un seul coup. Ils appartiennent à des moments différents, à des situations historiques différentes et à ce qu'on appelle en termes de linguistique la situation de discours, c'est-à-dire de l'énonciation des versets, et c'est ce qu'on appelle en arabe « asbabun nuzul ». Ça n'est pas tout à fait la même chose, mais ça renvoie à cette situation de la communication orale. Voilà pourquoi je dis « discours prophétique ». Discours prophétique qui va être distingué du texte coranique. Parce qu'il y a des problèmes tout à fait considérables que les musulmans ont gommés. Ils les ont gommés pratiquement depuis que nous nous référons à des commentaires classiques qui sont devenus des références obligées, comme le commentaire de Tabari ou le commentaire de Fakhreddin Razi, mais il y en a beaucoup d'autres. Et là aussi, nous passons de l'oralité à l'écriture. Tabari, pour écrire son exégèse du Coran en 20 volumes, c'est un des travaux les plus importants, Tabari, en son temps, fin du 9e siècle, début du 10e siècle, il a tenu compte de la riwaya, c'est-à-dire la transmission des esbab nuzul, de l'histoire de chaque verset, de façon orale. C'est ce qu'on appelle en arabe l'akhbar, c'est-à-dire les récits informatifs qui contiennent des informations. Outre le verset lui-même qu'on transmet, on transmet ce qui entoure la révélation de ce verset. Et cela forme ce qu'on appelle l'exégèse. Au temps de Tabari, la transmission orale fonctionnait encore. Voilà ce que je veux dire. Ça n'est pas simplement des choses qu'il a recueillies dans des livres déjà écrits pour les réécrire dans son propre livre. Et ça, c'est important. Après lui, justement, transmission par oral va diminuer davantage parce qu'avec lui, c'est le dixième siècle, quatrième siècle de l'Égypte, le livre est devenu quelque chose de beaucoup plus répandu dans les sociétés musulmanes qu'il ne l'était dans les siècles précédents.
Professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que la distinction que vous faites entre d'un côté la parole de Dieu,
oui,
de l'autre côté le discours coranique et ce que vous appelez vous-même le corpus officiel clos.
Oui.
Qu'est-ce qu'il se passe?
Alors, oui, là les auditeurs vont être perdus, malheureusement. Malheureusement parce que ce que je suis en train de dire ne s'enseigne jamais dans les écoles, sauf quelques exceptions à l'université, d'un certain nombre de gens qui sont au courant de ce qu'est la linguistique en tant que science des langues, l'étude des langues, car dans la période de l'islam classique dont nous avons parlé, il y avait de grands linguistes qui étudiaient la langue arabe, qui faisaient la grammaire, qui faisaient la sémantique, c'est-à-dire fabriquer des dictionnaires, et qui faisaient de la rhétorique, etc., etc. Tandis qu'après, on va cesser de faire tout ce travail et de poursuivre ce travail comme cela a été fait dans les langues européennes. Voilà pourquoi il faut aujourd'hui revenir à ce travail. Ce travail, je rappelle que les juristes qui ont élaboré la charia et le fiqh commencent toujours leur livre sur les usul al-fiqh, les origines ou les racines de la loi religieuse, il commence toujours par une longue introduction sur la langue arabe. Il ne parle pas de Coran, il ne parle pas de hadith, il ne parle pas de droit. D'abord la langue arabe, en tant que connaissance technique. Eh bien, aujourd'hui, pour nous, ça n'est plus la grammaire seulement, c'est la linguistique. Je n'ai pas le temps d'expliquer la différence entre ce qu'on appelait fiqh al-lugha en arabe, c'est-à-dire l'étude de la langue comme lexique, etc., et comme grammaire, et ce que nous faisons aujourd'hui pour la linguistique. La linguistique nous oblige à bien distinguer la communication orale de la communication écrite, parce que le sens qu'on communique se communique de façon différente. Je m'excuse, je ne peux pas aller plus loin. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous lisons le mushaf en oubliant tout ce que je viens de dire sur le fait que la totalité du discours coranique a été transmis oralement, mémorisé par les auditeurs, les compagnons, ce qu'on appelle les sahaba, et transmis ensuite toujours de façon orale. Et on a continué à le transmettre, à le mémoriser et à le transmettre de façon orale parce que le support écrit, les gens n'avaient pas confiance dans le support écrit. Pourquoi? Parce qu'on écrivait les consonnes en arabe, mais on ne mettait pas les points au début qui distinguent les consonnes ba, ta, tha, et surtout, on ne mettait pas les voyelles. J'invite les auditeurs qui connaissent l'arabe et qui lisent l'arabe de lire le commentaire de Tabari sur le verset 12 de la sourate 4, sourate Nisa. Il s'agit d'un verset extrêmement important parce qu'il traite de l'héritage. « Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun » Mais « in kana rajulun yurathu » il est le majhoul, c'est-à-dire au passif, quelqu'un qui est dont on hérite, pouvait se lire wa in kana rajulun yurithu à l'actif. C'est-à-dire, si un homme dispose de ses biens pour les léguer lui-même avec sa signature, ça change complètement la transmission des biens. Eh bien, les fuqaha se sont battus pendant des siècles, 2-3 siècles. Et Tabari, fin du 9e, début du 10e, Tabari rapporte 28 akhbar pour justement dire voilà ceux qui ont lu wa in kana yurathu et ceux qui ont lu wa in kana yurithu. Voilà pourquoi on ne faisait pas confiance à l'écriture, on faisait davantage confiance à la transmission orale de quelqu'un qui est adl, c'est-à-dire qui jouit de la moralité, de l'honorabilité, pour qu'il ne raconte pas des histoires à propos de ces questions importantes.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que jusqu'à Tabari, au Xe siècle, le mushaf était encore ouvert
ça
sur la voyalisation.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait, Tabari était ouvert encore pour recueillir des lectures. Et autrement dit, la lecture du texte coranique, l'articulation selon la grammaire et telle que le prophète lui-même l'a articulée, c'était encore ouvert. Si quelqu'un venait rapporter avec un isnad, c'est-à-dire avec une chaîne d'autorité qui ont transmis de l'un à l'autre jusqu'à Tabari, c'était encore possible. Après Tabari, ça va être fermé. C'est terminé.
Parce que dans la conscience musulmane,
la transmission orale n'est plus acceptée. Et cela veut dire que ce qu'on appelle le mushaf, c'est-à-dire ce que contient ce livre que nous lisons, maintenant personne ne peut plus y toucher. Et voilà pourquoi ce fameux verset, quand on lit le verset 12 de la sourate 4, c'est fini. Tout le monde le récite. Wa in kana rajulun yurathu. On a supprimé la possibilité d'une lecture à l'actif. Ça, voilà pourquoi j'appelle le Coran, ce même Coran, du fait du travail des hommes, du fait de l'intervention des fuqaha, des exégètes, etc., pendant 3 siècles, et du fait de l'intervention du pouvoir, on a fait des procès. En plein 4e siècle, à quelqu'un, Ibn Shenbud, qui avait rapporté justement un khabar qui n'était pas admis dans ce qui fonctionnait déjà comme le corpus officiel clos. Voilà pourquoi le texte coranique devient le corpus officiel parce qu'il y a l'intervention officielle du pouvoir politique et du pouvoir religieux par le qadhi qui instruit un procès. On instruit des procès contre ceux qui ne lisent pas ce que l'orthodoxie, désormais, oblige à lire.
Maintenant, juste, quelle est la distinction que vous faites entre ce que vous nommez parole de Dieu et discours coranique? Parce que là, vous nous avez fait entre le discours coranique qui se déroule durant 23 années et le corpus officiel clos. Mais quelle est la différence que vous faites entre la parole de Dieu et le discours coranique?
Juste, vous faites une distinction entre le texte coranique et le discours, donc coranique et le discours prophétique,
oui.
Ce que vous nous avez dit. Et le texte du Coran est considéré comme étant un texte sacré car il véhicule la parole divine. Là, votre réflexion casse un petit peu cette idée qu'on a, puisque vous nous expliquez que pendant la période de Tabari, il y avait une explication humaine. Enfin, disons que les personnes.
Non, c'est pas une explication.
C'est pas une explication, mais c'était le discours était oral.
Oui, c'est rapporté
oralement.
Des akhbar, c'est-à-dire des informations sur la transmission des versets et les conditions de cette transmission de chaque verset.
Ce qui remet en doute quand même...
C'est cela qui va changer après Tabari. Et Tabari lui-même, il a écrit ces choses-là, et ensuite, on va le citer. Tous les commentateurs du Coran vont citer Tabari, parce qu'il est devenu une source essentielle. Et on ne va pas rechercher les commentaires antérieurs. Par exemple, Mujahid est un commentateur antérieur à Tabari. Et d'autres qui existaient, mais Tabari est considéré comme l'aboutissement de plusieurs cheminements, de la mémoire historique, non seulement du texte coranique, de ce qui va devenir le texte coranique lui-même, mais de tout ce qui entoure la transmission des versets et la façon dont, au temps du prophète, les choses se sont passées. Alors là, c'est toute la littérature qui est autour du Coran qui est en jeu. Alors, parole de Dieu, la différence entre parole de Dieu et discours coranique, la parole de Dieu, c'est ce que le Coran nous dit. Quand il nous dit, par exemple, que même si les mers se transformaient en encre et si toutes les forêts, les arbres se transformaient en kalam, c'est une manière métaphorique de dire que la parole de Dieu est infinie comme Dieu lui-même. On n'épuiserait pas la mise par écrit du Coran. ou la récitation du Coran. Voilà, ça c'est la parole de Dieu qui est éternelle et qui est une des définitions, si l'on veut, de la personne même de Dieu, qui est éternelle, qui est infinie, etc. Ça, c'est sa parole. Cette parole, donc, nous n'en connaissons que des fragments qui nous ont été communiqués par des prophètes, car Mohammed vient après d'autres prophètes qui sont reconnus par le Coran. Donc, il y a là une histoire de la manifestation de la parole de Dieu infinie pour les hommes, pour la communiquer aux hommes à des périodes différentes. Il y a une histoire de la transmission de la parole de Dieu aux hommes. Voilà pourquoi le Coran parle de Taurat, alors que les chrétiens et les juifs parlent de Bible, parce qu'il y a plusieurs livres. Alors là, c'est toute une étude, justement, parce que le Coran est beaucoup plus ouvert pour considérer qu'il y a eu un Taurat, qu'il y a eu des Injils, les évangiles, alors qu'aujourd'hui, qui lit les évangiles? Qui va lire le Pentateuque? Car Taurat, c'est la Torah, c'est le Pentateuque, c'est un livre parmi les autres livres de la Bible. Donc, tout ceci montre le rétrécissement de notre utilisation aujourd'hui, de notre rapport aujourd'hui au Coran comme transmission orale et au Coran comme transmission écrite. J'insiste sur cela parce que, encore une fois, il y a des problèmes importants qui sont attachés à ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines manipulations sur le discours coranique? Tout à l'heure, vous avez parlé de Iqra. Est-ce que vous avez d'autres
justement,
concepts?
Voilà encore autre chose qu'il faut bien considérer. Il y a manipulation. Qu'est-ce que ça veut dire, la manipulation? C'est-à-dire qu'on intervient de façon arbitraire pour dire, par exemple, que l'Ashura, c'est l'origine de la démocratie. C'est ce qu'on appelle, en tant qu'historien, dans l'histoire, un anachronisme. C'est-à-dire, on attribue à un temps X d'autrefois quelque chose qui est arrivé bien après cela. Car la démocratie, elle existait à Athènes sous une forme qui n'est pas du tout celle que nous connaissons aujourd'hui. La démocratie a été une évolution historique extrêmement importante, et la notion de Shura, telle qu'elle se pratiquait à l'intérieur de la tribu, le conseil de tribu, le conseil de clan que nous connaissons encore aujourd'hui dans nos villages, par exemple berbères en Afrique du Nord, ou dans les tribus, il y a une participation dans la discussion. C'est ça la Shura telle qu'elle se pratiquait autrefois. On dit le socialisme est dans le Coran. Les découvertes scientifiques modernes
alors est-ce que c'est un
sont
de
dans
tout
le Coran.
Rapporter
ça, c'est
au
de
Coran.
La projection. C'est de la projection rétrospective. Oui. Pour montrer que le Coran a tout prévu, parce que c'est la parole. C'est ce qu'on appelle l'apologétique. La démonstration par l'apologétique que le Coran est une parole de Dieu. Or, le Coran n'a pas besoin de ces moyens qui, historiquement, sont inacceptables, parce que ça ne tient pas compte des règles de l'écriture historienne. Il faut respecter la façon dont les choses se passent dans chaque époque. Et c'est une lecture tout à fait erronée et même contre-productive spirituellement du Coran, parce que le discours de la science n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le discours religieux. Le discours religieux procède par métaphore, il procède par parabole. Le Coran est plein de paraboles, comme les évangiles, comme la Bible, et donc là aussi il y a une différence très grande. Tout ce qui a été dit, toute la bataille autour du voile, en France et dans les pays musulmans, surtout depuis la fameuse loi de la laïcité, et ça a même donné cette situation tragique que la France connaît depuis la prise des otages, etc. C'est une bataille entre ignorants. Ignorants de la laïcité, ce qu'est la laïcité, les contenus de la laïcité, la l'histoire de la formation de ce qu'on appelle la laïcité, beaucoup l'ignorent, y compris des Français, pas seulement des musulmans à l'extérieur, je le dis à haute voix, pour qu'on m'entende bien, n'est-ce pas ? Et on ignore de la même façon comment traiter les versets du Coran que l'on présente comme la base pour dire il faut porter le voile ou on peut ne pas porter le voile.
Professeur Harkoun, je vais devoir vous couper pour la pub. On va reprendre sur la manipulation du discours coranique.
Juste pour dire un mot, parce que sinon ça n'est pas complet, surtout à propos du voile, étant donné que c'est une bataille actuelle. Avant d'aller chercher s'il y a des versets pour ou contre le voile dans le Coran, il faut d'abord faire tout le parcours linguistique que je viens d'indiquer.
On va y revenir de toute façon. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez dès à présent nous appeler pour poser vos questions au 08 92 68 94 37.
Coranique. Oui. Je disais donc que cette question du voile qui a fait couler tant d'encre et tant de paroles plus ou moins acceptables et plus ou moins intelligentes et surtout objectives, il y a un immense travail à faire pour rendre le Coran lisible par les musulmans eux-mêmes, et ce travail n'est pas entrepris encore par les musulmans eux-mêmes, parce qu'il s'agit d'un travail de recherche scientifique. Je rappelle aux auditeurs que pour la Bible et pour les évangiles, un certain Richard Simon, catholique de l'Église, de l'intérieur de l'Église, qui a vécu au XVIIe siècle, a publié anonymement, comme nous aujourd'hui, parce qu'il avait peur de ceux qui contrôlaient la croyance orthodoxe catholique. Il a publié une analyse philologique, j'ai parlé de la philologie, de la Bible tout entière. Et en 1702, il a publié, au début du XVIIIe siècle, la même analyse pour les évangiles. C'est-à-dire qu'il a introduit déjà, il a fallu quand même attendre le XVIIe siècle, il a introduit déjà les méthodes de l'analyse philologique des textes religieux pour le christianisme et donc pour le judaïsme nécessairement.
Vous pouvez rappeler aux éditeurs ce que vous entendez par philologie pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion
La philologie, c'est une science qui étudie l'histoire de chaque mot utilisé dans un texte, quel que soit ce texte. Qu'il s'agisse d'histoire, qu'il s'agisse de philosophie, qu'il s'agisse de littérature, qu'il s'agisse de poésie, Taha Hussein a appliqué la méthode philologique lorsqu'il avait fait sa thèse, sa fameuse thèse « Fil Adab al-Jahili » pour montrer que beaucoup de textes qu'on faisait passer pour de l'adab al-jahili, c'est-à-dire la littérature avant l'islam, sont en réalité des textes qui ont été forgés après l'islam et mis au compte de grands poètes de l'anté-islam pour avoir une meilleure circulation et recevoir une plus grande autorité.
Ah, Hussein qui a été aussi très contesté.
Alors justement, les Azhariens l'ont attaqué et on a attaqué pour ce livre-là. Et ce livre-là a été interdit, il a fallu qu'il le republie. Parce que la méthode philologique introduit un autre regard intellectuel sur les textes religieux, tous les textes religieux, je le répète, et pas seulement, je ne suis pas en train de parler uniquement du Coran, je suis un historien des religions comparées. Ça aussi, il faut essayer de le mettre dans la tête des gens pour qu'ils ne réagissent pas de façon dogmatique et croire que on s'en prend au Coran, on est hostile au Coran dès qu'on dit quelque chose qu'on n'a pas justement eu l'occasion d'entendre dans les universités, dans les écoles, là où on parle une parole objective et scientifique. C'est cela, malheureusement, qui nous manque. Donc, pour la question du voile, tout le monde se précipite pour citer tel ou tel verset pour dire qu'il faut porter le voile. Je dis qu'il faut commencer par trois disciplines scientifiques avant de citer un verset quelconque, sinon c'est de la manipulation et non pas de l'exégèse. la première discipline, comme le faisaient les anciens exégètes, je l'ai dit, c'est la linguistique. Parce qu'il s'agit de lire un texte en langue arabe, il faut connaître la rhétorique de l'arabe, la sémantique de l'arabe, l'histoire du dictionnaire arabe, que dont nous manquons d'ailleurs jusqu'à présent. L'arabe, cette grande langue si riche de textes, n'a pas encore un dictionnaire équivalent au trésor de la langue française, 25 gros volumes publiés sur la langue française. Chaque mot de la langue française a une histoire et on peut le contrôler dans ce dictionnaire de la langue française, trésor de la langue française. L'allemand, l'anglais, toutes les langues européennes ont ce dictionnaire. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas travailler correctement sans ce dictionnaire. Nous avons le lisan l'arabe qui est très riche, mais qui date du Moyen-Âge et qui ne peut pas du tout satisfaire un chercheur scientifique aujourd'hui. Il nous faut un trésor de la langue arabe. Alors, linguistique, histoire critique, à la manière de Richard Simon depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire la philologie et la méthode historico-critique. Ça, c'est la deuxième exigence. Pour clarifier les choses, à propos de chaque verset, il y a toute une recherche à faire. Troisièmement, l'anthropologie. Pourquoi l'anthropologie ? Parce que le Coran est un discours de structure mythique, de structure linguistique et culturelle qui est mythique. C'est-à-dire qu'il nous renvoie à un mode de connaissance qui est critique. Alors, si on traduit mythe, je l'ai déjà dit, par ostora, les gens vont dire professeur Harkoun est un athée ou qu'il attaque le Coran. Parce que c'est une mauvaise traduction. Quand je dis qu'il est de structure mythique, je reprends ce que dit le Coran lui-même lorsqu'il dit dans la Sourate Yusuf « Inna naqussu alayka ahsan al-qasas qasasiyul binya »
Vous reprenez un verset pour appuyer vos dires.
« Al-Qur'an khitabun qasasiyul binya » Voilà la traduction. Et non pas « Al-Qur'an khitabun usturiyul binya »
Alors, professeur Harkoun, nous avons plusieurs appels en ligne. Juste une chose, avant de prendre Samira en ligne et vous lire les mails qu'on reçoit, les prédicateurs qu'on voit émerger ces derniers temps sur les chaînes satellitaires, même en France, partout dans le monde, qui ont donc un accès direct au texte et qui l'interprètent, oui, font un petit peu ce que vous faites, mais ils n'ont pas votre science, puisqu'ils ils avancent une pensée et la
ils font
et prennent des versets pour légitimer un petit peu ce qu'ils disent.
Oui, mais ça, c'est ce que j'appelle la manipulation sémantique du texte coranique, parce qu'ils n'observent pas les méthodes de l'analyse
donc
linguistique.
Vous allez nous parler des dangers
de l'analyse
tout à l'heure de cette manipulation.
Il y a de grands dangers.
Alors, pourquoi on n'arrive pas à ce que vous avez dit tout à l'heure, à allier donc la connaissance de la linguistique arabe, l'histoire critique et l'anthropologie? Pourquoi on n'arrive pas à avancer?
Parce que cette discipline ne s'enseigne pas encore partout de façon insistante, parce qu'on en a un besoin urgent. Même dans les universités, ça ne s'enseigne pas partout. Ou quand ça ne s'enseigne pas bien, parce qu'il y a des différences.
Donc ces sciences ne sont pas accessibles.
Entre les professeurs, ils sont différemment formés. Et troisièmement, surtout, on l'applique pour l'histoire de la littérature profane, mais on refuse de l'appliquer pour le texte coranique, parce qu'on dit le texte coranique, c'est la parole de Dieu, il ne faut pas lui appliquer ces méthodes-là. C'est ce que le Bossuet disait à propos de Richard Simon que j'ai cité tout à l'heure.
Oui.
Et c'est ce que les Juifs disent à Spinoza. Les Juifs ont rejeté Spinoza, qui a fait exactement la même chose au XVIIe siècle, contemporain de Richard Simon.
Professeur Harkoun, je suis désolé, je vous coupe parce que le temps passe très vite. Nous allons prendre l'appel de Samira juste avant. Je voulais vous dire que Aziz Jaïd vous a envoyé un mail pour vous remercier donc pour ces émissions émancipatrices et il fait un DEA de droit, je vous donnerai le mail,
bon,
je crois que je vous l'ai déjà donné.
Oui.
Vous verrez personnellement avec lui. Samira, bonjour.
Bonjour. اهلا بالسيده المحترمه سميره ابراهيم.
اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بك ونحن نشكرك كثيرا على برنامجك القيم.
الله يخليكي، شكرا.
وعلى كفاءاتك المهنيه التي برهنت عليها اكثر من مره.
اهلا، شكرا جزيلا. شكرا.
تفضلي حضرتك. نعم، شكرا للدكتور والباحث الجاد رشيد بن زين.
نعم.
شكرا لكم الاستاذ الفاضل والجليل محمد اركون على وجودكم وعلى المواصله في مهمتكم العلميه الرفيعه هذه. وإننا نعبر لكم على مدى اعتزازنا وافتخارنا بكم.
شكرا
جزيلا. إنكم تحتلون صدارة المفكرين العرب المسلمين المعاصرين وتزودوننا بمادة معرفية زاخرة.
اتفضل.
الأدوات التحليلية الأساسية والجوهرية، يعني لا matière de base épistémologique et les outils analytiques nécessaires et fondamentaux لتصور فهم سليمين لقضايا الفكر العربي الإسلامي. وأقول أن أعمال الأستاذ الفاضل محمد أركون العديدة لها من جودة فكرية وعلمية من جودة فائقة. وأقول لمن يجهل الأمر أنا الأستاذ
سميرة لو سمحتي. نعم. حضرتك ممكن. نعم. تسألي السؤال معلش عشان في اتصالات كثيرة.
نعم.
بشكرك.
أنا أريد فقط أن
كثير
أقول
للكلام الجميل اللي حضرتك بتقوليه. ممكن السؤال لو سمحتي.
وأريد فقط أن أرد على هذا التجاوز لأقول أن الأستاذ محمد أركون قد. نعم. كون وأثر أكثر من جيل وأن مقاربته مقاربة علمية أساسا.
نعم.
على هذا الأساس أنا. نعم. اتصلت ولي سؤال إذا تفضل.
نعم اتفضل.
محمد أركون، أنا لا أفهم كلمة سجين في الآية الكريمة السابعة من سورة المطففين.
كلمة
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أنا لا أفهم كلمة سجين. إذا تفضلتم أستاذ الفاضل بالشرح هذه الكلمة.
Vous avez entendu professeur Arkoun. J'ai du mal. Vous pouvez répéter s'il vous plaît Samira. ما سمعناش الكلمة اللي حضرتك يعني حابة تفهميها.
أنا أقول أني لا أفهم كلمة سجين في الآية السابعة، الآية الكريمة السابعة من سورة المطففين.
نعم.
والآية هي كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. شكرا لكم.
شكرا جزيلا. شكرا مدام سميرة، ان شاء الله نسمع صوتك دائما في ذات الشرق. بروفيسور أركون، vous pouvez répondre à la question de Samira.
Oui, répondre que voilà un exemple de recherche philologique.
Oui.
Je ne peux pas lui dire ça signifie ceci ou cela parce que justement les renseignements que nous avons sur ce terme-là et sa signification exacte dans le Coran sont demeure quelque chose de très discuté.
Oui.
Voilà, c'est un bon exemple. Elle dit qu'elle ne le comprend pas parce que les exégètes eux-mêmes ne l'ont pas compris. Ils ont donné des hypothèses et donc c'est comme Multaqa al-Bahrain par exemple. On se perd en hypothèses que où est-ce, on veut le localiser géographiquement, etc., etc. Alors qu'il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un langage de structure mythique. Mm-hmm. Il faut lire cette expression à l'intérieur d'un récit qui intervient dans la sourate Al-Kahf, c'est la sourate de la caverne, où nous trouvons trois grands récits mythiques. Le récit mythique des sept dormants d'Éphèse, le récit mythique qui remonte à la légende de Gilgamesh dans le Proche-Orient et qui circulait dans le Proche-Orient et que les historiens étudient encore aujourd'hui parce qu'elle a fait elle a traversé toutes les frontières culturelles. On la trouve en Asie, on la trouve en Afrique, etc. Voilà. Et puis on trouve aussi le roman d'Alexandre Zulqarnain qui est cité exactement également dans la Sourate Al-Kahf. Voilà. Donc je préfère lui répondre cela que de lui dire. Ça, c'est l'attitude du savant, du philologue. Ça veut dire ceci ou cela. Je ne veux pas m'engager, non pas parce que je ne veux pas lui répondre, mais parce que, encore une fois, il vaut mieux connaître la méthode ici que de risquer une traduction qui sera de toute façon, qui continuera d'être discutée.
Dans d'autres émissions, vous avez bien fait de rappeler que mythe ne veut pas dire fable ou légende.
Oui, mais ça, il faut le répéter constamment, parce que les auditeurs, mais ça, même dans la langue française, quand on dit c'est de la mythologie, ça veut dire que ça n'est pas vrai, que ce n'est pas de l'histoire, que ce n'est pas fiable par conséquent, même en français, parce que en français, le 19e siècle a développé un regard positiviste, scientiste, sur les mythologies. On a mis du temps pour réhabiliter le mythe dans la pensée européenne elle-même. Et il a fallu les études anthropologiques récentes pour que le mythe revienne à sa fonction fondamentale, car le mythe est dans toutes les cultures, il est dans toutes les langues, même, par exemple, aux États-Unis, on peut étudier la mythologie actuelle des États-Unis, comment les États-Unis regardent le monde extérieur, comment les États-Unis regardent les musulmans et l'islam aujourd'hui, c'est de la mythologie. Seulement, il y a une différence, je n'ai pas le temps d'expliquer, entre la structure mythique et la structure mythologique. C'est encore quelque chose de différent. Voilà pourquoi nous avons parlé de mytho-histoire et de mytho-idéologie. Ce qui se passe en Amérique ou en Europe à propos de l'islam et des musulmans aujourd'hui, dans le contexte des guerres, etc., c'est de la mytho-idéologie qu'il faut différencier de la mytho-histoire.
Professeur Harkoun,
je n'ai pas le temps.
Malheureusement, je vous propose de prendre l'appel de Mariam. Bonjour Mariam. Ahlan wa sahlan.
Bonjour professeur Mohamed Harkoun et monsieur Rachid Benzid. Voilà, ma question, vous avez parlé des discours et manipulation du texte coranique. J'ai constaté que ces dernières 20 années, si on peut dire, j'ai entendu à des occasions de conférences, des discours de musulmans, des discours qui sont très militants et basés sur leur propre idéologie. Et justement, ces militants essaient d'enrichir leurs propos tout en faisant référence aux versets coraniques, à des hadiths, bien sûr pour mettre au service de leur opinion. Et ils arrivent malheureusement à manipuler beaucoup de monde, et surtout les jeunes qui ignorent beaucoup de choses du texte coranique et de toute l'histoire de l'islam. Moi, ma question, est-ce que ces discours empêchent l'évolution, je dirais, si vous me permettez, du projet combat harkounien? Et comment pensez-vous le faire avancer dans ce contexte actuel? Voilà.
Merci beaucoup.
Merci pour votre intervention et merci pour cette émission qui était très très riche pour moi personnellement.
Merci beaucoup, voilà. Mariam. À très bientôt. Au revoir. Harkoun.
Eh bien, si nous avons beaucoup d'auditeurs comme vous, madame, les choses peuvent commencer à marcher, et les musulmans chez eux, les musulmans en Europe et en Occident, ouvriront enfin les chantiers nécessaires en créant des associations, par exemple, pour organiser des conférences, des échanges, parce que on ne peut pas attendre, hélas, de l'école qu'elle fasse ce travail. Ça, c'est un combat que je mène en France depuis longtemps, et je dis que la laïcité de neutralité nous a privés de la culture nécessaire pour comprendre le fait religieux. Aujourd'hui, on s'en aperçoit en France, on voit très bien ce côté de démission intellectuelle et de démission de la recherche scientifique au sujet du domaine considérable, fécond, d'une grande richesse culturelle que représentent toutes les religions. Toutes les sociétés humaines ont vécu avec des connaissances de type religieux. Et elles vivent encore, beaucoup d'entre elles, sur ce patrimoine religieux. Or, ce patrimoine religieux n'a pas fait l'objet de ces études scientifiques. Et particulièrement pour l'islam, on a certes un certain nombre d'études, mais je dois dire que ce sont des études qui ont été écrites par des chercheurs en Europe, en Amérique, c'est-à-dire d'Occident, et pas par des musulmans. Les musulmans, surtout depuis les indépendances, paradoxalement, nos États, au lieu d'ouvrir les écoles à la connaissance moderne de nos sociétés, ils ont au contraire encouragé la transmission de ce que j'appelle l'ignorance institutionnalisée par l'État, puisque l'État paye des professeurs mal formés et qui enseignent par conséquent à leurs élèves l'ignorance et non pas du tout la connaissance.
Un de vos combats est un combat pour un humanisme en contexte islamique.
Oui, ben oui, c'est cela, l'humanisme. L'humanisme en Europe au XVIe siècle, c'est la redécouverte de toute la pensée et la culture romaine et grecque qui étaient des cultures fondées sur le polythéisme. Or, le polythéisme a été combattu par le christianisme, par l'Église catholique, pour l'éradiquer, en disant que ça n'est pas la religion vraie. La religion vraie, c'est moi, c'est le catholicisme. L'islam a fait le même travail. Et voilà pourquoi les cultures populaires orales ont été marginalisées au cours de l'histoire. Là, c'est un grand problème, comment les religions, surtout les religions du livre, c'est-à-dire de l'écriture, comment elles ont marginalisé toutes les cultures que nous appelons populaires et aujourd'hui qui sont devenues populistes. Ce que disait cette dame au sujet de tout ce que disent les imams dans les mosquées, dans leurs sermons, etc., en tirant un verset dans toutes les directions, en le manipulant, en massacrant, je n'exagère pas, le discours coranique.
Est-ce que vous pensez
et les gens écoutent ça comme ils n'ont pas de point de référence pour essayer de se protéger, personne ne vient de les protéger, et bien ce que disent ces imams là est retenu par les jeunes.
Est-ce que vous pensez que l'enseignement justement du fait religieux à l'école pourrait être une réponse pour mieux comprendre l'islam, et surtout par qui
je lutte pour cela? J'ai réussi à créer à Montreuil un centre civique du fait religieux avec le député maire Jean-Pierre Brun, qui a eu l'intelligence politique en tant que maire de Montreuil, où il y a une population immigrée extrêmement importante. Nous avons créé ce centre. Et vous savez, beaucoup de gens viennent suivre les cours, excepté les musulmans de Montreuil, que les gens l'entendent. Et pourquoi ? C'est difficile à expliquer, parce que ça demanderait du temps. Voilà une question qui interroge.
Peut-être qu'ils ne sont pas au courant, on va répondre.
Mais non, pas du tout, absolument pas. Ça a été diffusé dans toutes les radios.
Le disait
la mairie
Mariam,
de Montreuil a mis le paquet pour faire connaître cette initiative.
Le projet Arkounia,
qui est la première en France,
est-il mis à mal?
Le projet Arkounia est passé sous silence.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui vont dans la lignée politique et qui font du militantisme politique et qui ne tiennent absolument pas à ce que cette manière ouverte, critique dans le sens de construction, pas dans le sens de démolition, de notre patrimoine intellectuel, culturel et religieux, cette manière-là, évidemment, rend obsolète toutes ces manipulations du Coran et donc le pouvoir que l'on se donne avec ça est perdu. Et je dois ajouter que l'État français républicain a donné de la visibilité à cette manière de manipuler l'islam et la
Donc il y a une responsabilité de l'État français. Nous prenons deux appels, deux questions. Bonjour. Allô. Bonjour. Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour, votre prénom s'il vous plaît.
Je suis Fatima.
Bonjour Fatima, je vous en prie votre question.
Alors ma question en fait c'était une petite remarque. Parce que M. Arkoum définissait par philologie explication sémantique des termes du Coran. Et donc, il a cité lui-même un verset en disant que Qissas, dans Surat Yusuf, correspondait à récit, à on peut dire fable, mythe. Et je me suis précipitée dans le dictionnaire pour voir que mythe signifiait récit à base d'imagination. N'est-ce pas, M. Arkoum?
Oui.
Donc, vous considérez que les récits signifie donc une imagination.
Vous avez parlé tout à l'heure de métaphore, professeur Arkoum,
oui,
également.
Oui, oui.
Merci beaucoup, Fatima, pour votre question, très intéressante.
Excellente question, madame, parce que votre dictionnaire vous parle d'imagination, sans vous dire qu'il y a aussi l'imaginaire, qui est une manière de fonctionner pour ce que nous appelons l'imagination. L'imagination est une faculté de connaissance. C'est une faculté de représentation. Et il faut distinguer l'imagination créatrice qui caractérise le discours coranique, le discours prophétique en général, et qui caractérise le discours poétique. Le poète est un créateur d'images, de métaphores, qui rassemble dans une métaphore un grand nombre de visions, d'explications, etc. Et donc, le récit mythique, effectivement, met en œuvre l'imagination créatrice. Et il ne faut pas confondre les productions fécondes et nourrissantes pour l'esprit de l'imagination créatrice avec celle de ce que les sociologues et les anthropologues appellent l'imaginaire social. On me dit d'arrêter.
Je suis désolée, professeur. Wadraka
Shahrazad Sabah, fasakatat anil kalam il mubah.
Ça, c'est pour que vous reveniez, Inch'Allah, au Raïb, Qariban. Merci beaucoup au professeur Harkoun, professeur Mohamed Harkoun, professeur émérite de l'histoire de la pensée islamique à Paris 3, attaché à plusieurs universités européennes et américaines, et auteur de Manhattan à Bagdad, au-delà du bien et du mal, aux éditions des Clés de Brouwer. Je vous conseille.
Il y a d'autres livres que celui-là.
Oui, c'est le dernier, il faut absolument le lire. Merci beaucoup à Rachid Benzine, chercheur en herméneutique coranique, science de l'interprétation des textes sacrés, et auteur des Nouveaux penseurs de l'islam aux éditions Albin Michel. Si on a compris quelque chose au cours de ces 5 émissions consacrées à l'islam, l'islam est-il pris en otage, c'est qu'il faut faire un effort. Allez lire vos ouvrages et ceux des scientifiques.
Aussi que, effectivement, il est pris en otage.
Il est pris en otage peut-être par les musulmans.
Musulmans eux-mêmes qui ne font pas le nécessaire pour créer un système éducatif moderne pour leurs enfants.
Merci, professeur Harkoun.